Amis de Radio Silence, bonjour. C'est toujours un plaisir hein, de vous retrouver et surtout après un petit moment d'arrêt qui n'en est pas vraiment un, hein, puisque entre-temps en Afrique, il ne s'est pas véritablement passé grand-chose. Et comme je suis surtout là pour vous parler de l'Afrique, voire de tout ce qui peut avoir une incidence sur le développement de l'Afrique, je vous avoue que je n'avais pas de sujet passionnant à vous présenter et je ne suis même pas sûr que celui que je vais vous présenter va vous intéresser tant que ça. Mais je pense que cela doit pouvoir le faire. Donc on va reparler du Zimbabwe. Je vous en ai déjà suffisamment parlé auparavant et vous avez certainement suivi les problèmes du pays. Alors la nouveauté, c'est que lors du G20 du 2 au 3 avril à Londres, les grands pays du monde qui détiennent donc 80% de la richesse mondiale ont décidé que c'était le moment de ne pas refaire, reproduire les erreurs du passé, à savoir faire un développement un peu auto-centré entre eux, hein, en excluant et ou en ignorant les pays soi-disant, enfin qu'on appelle émergents, ou encore les pays pauvres. Et c'est le cas, bien sûr, majoritairement des pays de l'Afrique. Donc du Zimbabwe. Alors le Zimbabwe n'est véritablement pas un pays pauvre, hein. Il était bien parti, le grenier l'Afrique, on disait il y a encore 10 ans. Mais tout ceci, c'était avant la réforme agraire, donc cette réforme qui consistait à retirer, au moins à reprendre possession des fermes, des terrains plutôt, qui étaient occupés par, qui abritaient les exploitations des fermiers blancs, dont des anciens colons, qui s'étaient appropriés les terres au moment de la colonisation. Il fallait donc restituer les terres aux véritables propriétaires, ce qui a été fait, mais Londres avait promis une aide pour aider à la transition de tout ceci, puis finalement, pour des raisons des géopolitiques internationales qui sont toujours très plus ou moins compliquées à comprendre, Londres s'est rétracté, Gordon Brown a engagé là-dessus un bras de fer avec le président Robert Mugabe, bras de fer qui a conduit à mettre donc le pays, le Zimbabwe, sous embargo, à supprimer les aides des institutions financières internationales, dont notamment de la Banque mondiale et du FMI au Zimbabwe. Et finalement, le Zimbabwe s'est trouvé étranglé, donc complètement étranglé, ne pouvant plus assurer les besoins de sa population, ni donc alimentaire, hein, l'agriculture a complètement, comment dirais-je, peut-être pas disparu, mais c'est tout comme la famine s'est installée dans ce pays qui connaissait pas la faim, qui plutôt nourrissait les pays voisins. La misère s'est installée, le chômage s'est installé, l'embargo a conduit donc à limiter presque tout. Les produits d'importation qui permettent à ce pays de se développer, notamment tous les produits qui permettent de traiter l'eau, qui permettent de développer toutes les infrastructures sanitaires, les médicaments dans les hôpitaux, bref, etc., etc. Et tout ceci a débouché sur l'épidémie de choléra qui vient tout juste de se terminer, en fait, se terminer peut-être pas, mais qu'on a pu contenir, et qui a fait 4 000 morts déjà. Donc une grosse crise et pour ajouter donc à cette crise-là les avoirs de Robert Mugabe et de toute sa famille ont été gelés dans les banques occidentales, donc le Zimbabwe n'avait vraiment pas d'argent du tout. Alors là-dessus s'est greffée la crise politique, donc avec le Premier ministre Morgan Tsvangirai, qui était le rival lors des présidentielles l'année dernière, et présidentielles sur lesquelles il a accusé Robert Mugabe de fraude, et il a d'ailleurs boycotté le second tour en disant que de toute façon le résultat était connu, c'était pas la peine de continuer les élections. Oui, peut-être, mais seulement on a appris par la suite que Morgan Tsvangirai lui-même serait manipulé par donc les anciens fermiers blancs, donc des Anglais, des Britanniques, qui ne sont pas véritablement partis du pays, qui sont toujours là et qui ont essayé de mettre un peu au pouvoir, d'installer au pouvoir une marionnette, hein, un homme de paille, et de revenir comme ça par la fenêtre. De récupérer les terres qu'on leur avait retirées. Donc, c'était pas non plus simple. Morgan Tsvangirai est un ancien mineur, il faut le savoir, ancien de la mine, un peu comme Lech Walesa. Donc, là aussi, Lech Walesa, quand on sait le bilan qui a été le sien en Pologne, on ne peut pas non plus dire que le Zimbabwe a perdu grand-chose en n'ayant pas Morgan Tsvangirai comme président du Zimbabwe. Toujours est-il que finalement, les deux partis, le mouvement démocratique pour le changement de Morgan Tsvangirai, le parti politique, et le ZANU-PF du président Robert Mugabe, sont parvenus à un accord, donc un gouvernement d'union avec des ministères proportionnellement distribués, 12 pour le MDC et 13 pour Robert Mugabe, et les choses sont en route. Moyennant quoi? La stabilité a été récompensée. La Banque mondiale vient d'accorder 22 milliards de dollars au Zimbabwe pour relancer son économie. Là aussi, on savait très bien qu'il y avait plus. Les magasins étaient vides. L'inflation a été devenue astronomique. En ce moment, les choses sont réglées. Il n'y a plus de monnaie du Zimbabwe. Le dollar s'est installé comme la monnaie de référence. Les magasins commencent à être approvisionnés. Bref, l'économie repart. Et puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais toute seule, l'Allemagne a promis 10 milliards d'euros également pour apporter son aide au Zimbabwe. Alors, le problème, c'est que l'Allemagne pose une petite condition quand même. La première tranche de moitié environ sera libre, sera sans condition, mais la deuxième a pour condition la bonne gouvernance. Bon. Espérons que ce genre de conditionnalité ne va pas ajouter des problèmes ou plutôt en créer là où il n'y en avait plus. Amis de Radio Silence, je vous dis à bientôt.